Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui me retrouvez dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis aujourd'hui avec une autrice de bande dessinée, Vicky Lifung. J'espère que je prononce correctement. J'avais très envie de la recevoir et de vous la présenter parce qu'elle vient de publier son premier album aux éditions Delcourt. Ça s'appelle Mong. Elle va aussi nous dire si on prononce correctement ce mot, donc c'est l'histoire d'un peuple méconnu, mais avant de parler à la fois de l'album et du peuple Mong, Vicky, bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes en quelques mots ?
Eh ben, avant tout, bonjour. Alors en quelques mots, moi je suis une fille d'immigrés, Mong, je suis libraire de base et j'ai écrit une première BD sur les Mong qui est mon peuple et sur mes origines.
Alors, pourquoi une BD et pas un livre ? Enfin, une BD est un livre, évidemment, mais pourquoi pas un livre traditionnel en texte ?
Alors, parce que je suis plus à l'aise sur le format BD, pour le coup. Moi, j'aime beaucoup dessiner depuis toute petite. Et c'est vrai que même si mon rêve, c'était de devenir vraiment écrivain, etc., sur cette histoire-là, je voulais vraiment la faire en images.
C'est pas encore râpé, vous pouvez toujours devenir écrivain après.
Oui, on verra plus tard.
Où est-ce que vous avez appris à dessiner ? Vous avez fait une école ou vous êtes totalement autodidacte ?
Totalement autodidacte. Avec mes sœurs, en fait, on passait nos après-midi à dessiner. Donc, on a appris vraiment tout ensemble le dessin.
Parce que je trouve que c'est d'une maîtrise assez, assez remarquable, à la fois dans le dessin, dans le découpage, dans les cadrages, dans la narration. On tombe dans ce livre et on ne peut plus s'en détacher jusqu'à la fin.
Alors, au niveau de la technique, etc., en fait, avec mes sœurs, justement, on s'est beaucoup entraînés à faire des BD. Et j'ai deux sœurs qui font de la BD aussi. Hein. Mais c'est surtout le fait de lire aussi beaucoup de BD, ça aide aussi à savoir comment raconter une histoire, etc. Après, je me suis beaucoup documentée aussi. Enfin, il existe plein de livres qui explique comment faire un scénario, etc. Et c'est vrai que ça aide pas mal, et mon éditeur aussi m'a beaucoup aidé.
Est-ce que vos sœurs ont participé à cette bande dessinée avec vous ? De vous parler d'elles ? Est-ce que c'est un travail à plusieurs mains ?
Alors non, du tout. Pour le coup, j'ai vraiment fait ce travail toute seule. Je pense que c'est justement un travail que je devais faire toute seule aussi, parce que c'est toute une quête de soi, des origines, etc. Et j'avais vraiment besoin de le faire de mon côté. Je leur ai juste demandé si je pouvais les dessiner à l'intérieur, dessiner ma famille à l'intérieur, mais c'est tout.
Le titre, c'est donc « Mong, l'histoire vraie d'un peuple méconnu ». Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les Mong ?
Alors, les Mong, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, mais d'après ce qu'on sait, c'est qu'ils viennent du nord de la Chine, et ils ont vraiment migré après en Indochine. C'est vrai qu'il est très peu connu, parce que on est vraiment une petite ethnie, et en plus on a énormément on est un peu éparpillé partout, donc tous les Mong n'ont pas forcément le même dialecte, mais on a quand même une langue quand même principale. Mais c'est vrai qu'il y a des mots qui peuvent changer en fonction des clans. Donc les Mong, c'est un peuple qui est pas du tout connu en France, même si on est beaucoup, il y a une grosse communauté dans certaines régions de la France, et après on est très discret, donc c'est aussi pour ça qu'on n'est pas connu.
Alors dans quel endroit précisément de l'Indochine les Mong sont installés, parce qu'ils ne sont pas évidemment partout dans l'Indochine, ils ne sont pas non plus partout en Chine, ou est-ce qu'il y a des endroits, évidemment le Laos, est-ce qu'il y a des endroits comme ça où les Mong se sont installés plus précisément, où ils ont été concentrés, où ils ont pris beaucoup d'importance ?
Alors, il va y avoir la Thaïlande, où il y a beaucoup de Mong qui ont pris refuge là-bas. Le sud de la Chine aussi, où il y a énormément de Mong là-bas. Il y en a un peu au Vietnam, mais après c'est surtout vraiment le Laos où il y en a pas mal.
Parce que vous racontez l'histoire du peuple Mong, des débuts, même si c'est des débuts un peu mythiques, on va dire, ou en tout cas mythologiques. L'histoire du peuple Hmong, elle bascule tout d'abord avec la colonisation française de l'Indochine et du Laos, et elle bascule surtout beaucoup au XXe siècle avec la guerre d'indépendance du Vietnam. Pouvez-vous nous raconter comment les Hmongs vont se retrouver embarqués dans cette histoire qui est vraiment dramatique pour votre peuple ?
Les Hmongs, quand les Français sont arrivés, pour eux, en gros, globalement, c'était l'avancée au niveau des écoles. Je pense que la France leur a beaucoup apporté. Ils ont apporté l'écriture, la religion aussi, parce que les Hmongs sont animistes de base et on n'a pas de religion en particulier, mais voilà, ils ont apporté aussi le christianisme. À partir de là, je pense qu'ils ont beaucoup fait confiance aux Français. Et les Français, malheureusement, après, ça ne s'est pas très bien passé en Indochine. Et comme ils étaient dans le camp des Français, les Hmongs, enfin en tout cas une partie des Hmongs, forcément, ça ne s'est pas très bien passé ensuite. Surtout qu'ils ont continué à être du côté des Occidentaux avec les Américains un peu plus tard. Donc voilà, donc, forcément...
Parallèlement à ça, il y a des Hmongs qui prennent beaucoup d'importance et qui vont rentrer dans les cercles du pouvoir laotien. Là aussi, c'est un peuple qui a une importance politique très grande.
Alors, pas si grande que ça. Enfin, en tout cas, il y a un personnage qui est vraiment très très connu, qui est Tu Bili Fung, qui a vraiment eu une place très haut placée dans les conseils laotiens. Après, c'est vrai que c'est le plus connu. Et c'est un peu, entre guillemets, le roi des Hmongs, parce que c'est lui qui a vraiment porté plein de projets d'école. C'était vraiment un personnage très, très important dans la communauté. Après lui, malheureusement, il n'y a pas eu non plus énormément de Hmongs, mais c'est grâce à lui que plein d'ethnies ont été reconnues.
Oui, c'est ça, parce qu'on va vous parler de ça juste quelques secondes. Les Hmongs, c'est une ethnie donc, de la région du Laos, on va faire simple, mais évidemment, ce n'est pas la seule ethnie. Il y a beaucoup d'ethnies, des petites ou des plus grandes, mais souvent un peu petites en nombre de personnes, qui vivent souvent dans les forêts ou dans ces régions-là.
C'est ça, il existe plein d'ethnies différentes, pareil, avec des langues différentes et des traditions différentes. Et je sais que Toubi a beaucoup travaillé justement au gouvernement pour qu'elle soit reconnue en fait, en tant que laotien.
Dans votre livre, il y a l'histoire des Hmongs, mais il y a évidemment l'histoire de vos parents qui sont pris eux-mêmes dans la guerre, parce que tous les Hmongs de l'époque sont plus ou moins concernés, pris dans la guerre, et à un moment donné, ils vont devoir partir. C'est très poignant dans votre bande dessinée, c'est très très bien raconté. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Parce que c'est évidemment la vie particulière de vos parents, mais c'est aussi la vie de centaines de milliers de Hmongs qui vont devoir partir. À quel moment ils doivent partir, pourquoi et comment ça se passe?
Alors, mes parents, comme je le dis dans la BD, mon père est parti en premier pour partir un peu en éclaireur, pour voir justement comment, si c'était viable aussi, parce que c'est vrai que c'était vraiment l'inconnu, quoi. Ils partaient de leur village, ils connaissaient rien, parce que forcément, ils ont vécu qu'au Laos, dans des petits villages où on... Je suis même pas sûre qu'ils aient vécu dans de grandes villes. Et c'est vrai que quand la guerre a commencé, ils ont été forcément pris dedans, ils ont dû faire un choix et ils ont décidé de partir. Donc mon père est parti en premier, il est vraiment parti tout seul en Thaïlande et il a ouvert un peu la route à ma mère et à ma sœur qui étaient restées au Laos. Et ma mère a pris ma sœur et elles sont parties, voilà.
Ouais, elles sont parties, mais c'est pas si simple que ça quand même.
Mais c'est pas si simple que ça, oui, parce que du coup, en fait, ce qui était très compliqué, c'est que justement, comme les Hmongs étaient poursuivis, elles devaient pas mal se cacher ou pas montrer qu'elles étaient Hmongs aussi, ce qui était un peu compliqué. Et elles devaient vraiment faire comme si, en fait, elles allaient juste visiter la Thaïlande pour acheter des fruits et des légumes et en fait, elles ne sont jamais revenues, quoi. Elles ont pris quelques affaires et elles sont parties.
Oui, ça c'est quelque chose d'étonnant, parce que moi j'ai eu la chance d'aller au Vietnam et donc de voir le Mékong, de voir ce fleuve qui est quand même un très très grand fleuve. C'est un fleuve impressionnant, quoi. Et on imagine votre mère et votre sœur traverser donc ce fleuve sur cette petite barque pour aller faire des courses de l'autre côté. voilà, il y a un petit côté dramatique et en même temps un petit côté humoristique. C'est-à-dire que cette traversée, bah, c'est officiellement juste pour aller acheter des fruits et des légumes.
Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment une anecdote que ma mère m'avait racontée qui était assez forte. Et je me suis dit, mais enfin, il fallait que je raconte ça, quoi. Et c'est vrai que bah, après, mon père, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il ne savait pas nager. Mais il a quand même réussi à traverser malgré tout, en sachant qu'il bah, y avait beaucoup de soldats qui bah, regardaient bah, les berges du Mékong et qui, en fait, devaient tirer à vue. Hein. Dès qu'ils voyaient quelqu'un traverser, c'était bon, bah, ils tiraient, malheureusement.
Oui, parce qu'ils sont pourchassés de leur pays, mais ils ne sont pas forcément bien accueillis et bienvenus de l'autre côté.
C'est ça, c'est très complexe parce que du coup, bah, les Thaïlandais les ont accueillis. Au début, bah, forcément, c'était temporaire, mais il y en a beaucoup, au final, qui sont restés et c'était plus temporaire du tout. Donc forcément, la situation a évolué. Au début, bon, bah, c'était pour leur venir en aide et après, ils se retrouvaient avec beaucoup de gens à gérer en plus. Donc voilà, c'est vraiment très complexe.
Pourquoi vos parents viennent en France ? Pourquoi est-ce qu'ils atterrissent en France et pas aux États-Unis ou dans d'autres pays comme ça ? Est-ce qu'ils parlaient français quand ils sont arrivés ?
Alors, pas du tout. Ils parlaient vraiment, vraiment pas du tout français. Alors, ils sont venus en France parce que mes grands-parents sont venus en France. Enfin, les parents de ma mère sont venus en France s'installer. Et donc, ils les ont suivis et quasiment toute la famille, en fait, est venue en France. Après, c'est... Une fois arrivé en France, il y en a certains qui ont décidé d'aller aux États-Unis, mais pas tout de suite, quoi. Après, voilà, ça dépendait aussi, je pense, des places disponibles et des passeports disponibles aussi.
Oui, c'est une histoire d'immigration. Voilà, c'est aussi une histoire qui fait écho à l'actualité, à toutes les personnes qui viennent se réfugier en France. Voilà, c'est aussi une histoire qu'on peut voir comme ça. Et alors, comment se passe leur installation en France ? Parce que donc, ils ont travaillé avec des Français quand ils étaient au Laos, si j'ai bien compris votre histoire. Comment se passe l'installation ? Est-ce que c'est difficile ? Comment ils se débrouillent ?
C'est difficile parce qu'ils ne parlent pas français. Donc ça, c'était vraiment le plus difficile. Après, une fois arrivés en France, ils ont été pris en charge au niveau des habits, au niveau du matériel, etc., des appartements. Mon père a trouvé assez vite du travail. Donc du coup, ça a quand même facilité les choses. Parce que du coup, il y avait quand même une rentrée d'argent derrière. Et après, ma mère a pris des cours de français pour le coup. Elle en prend encore maintenant. Et ils se sont débrouillés. En fait, je pense que les Hmongs ont une capacité d'adaptation assez forte. Et voilà, ils ont vraiment tout fait pour s'intégrer à la vie française. Donc, ils ont dû, pareil, réapprendre à cuisiner parce que forcément, ce n'était pas les mêmes légumes et les fruits. Ce n'était pas les mêmes produits, mais on n'utilisait pas forcément les mêmes les casseroles, etc. Les ustensiles, c'était différent. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'ils ont dû réapprendre. Mais voilà, ils y sont arrivés. Hein. Après, je pense que vraiment, le côté de famille aussi a beaucoup aidé parce qu'ils étaient soutenus aussi par les grands-parents qui étaient à côté. Enfin, il y avait vraiment la famille.
Voilà. Oui, parce que là aussi, ça fait écho à l'actualité. C'est que vos parents vivaient dans des tout petits villages. C'était une vie... Enfin, c'était des villages agricoles, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait pas de magasin. Enfin, c'était vraiment une vie très modeste. Et là, ils sont transplantés immédiatement dans une grande ville, des grands ensembles de l'industrie, du commerce. Ça a dû être un sacré choc.
Bah, c'est ça, c'était un gros choc parce que moi, ma mère fait partie d'une famille de paysans. Donc, c'est vrai que, bon, après, elle s'est mariée avec mon père, qui a eu quand même une éducation, qui avait appris à lire le laotien, etc. Donc, il est quand même allé à l'école. Mais ma mère était vraiment analphabète. Hein. Donc, c'est vrai que pour elle, je pense que ça a été encore plus difficile parce que, elle a dû apprendre en France à lire, à écrire, le français, etc. En plus de faire les petits jobs. Donc, oui, c'est pas évident.
Alors, on découvre donc que beaucoup de Hmongs sont installés en France. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette communauté Hmong qui vit en France ? Il y en a aux États-Unis, il y en a dans d'autres pays, mais il y en a beaucoup en France, beaucoup en Guyane. Donc, pareil, j'ai découvert qu'il y avait une forte implantation des Hmongs en Guyane. Mais comment c'est une communauté qui vit très renfermée, qui vit ouverte. Est-ce que les traditions sont conservées parce que vos parents sont arrivés il y a plus de 30 ans? Est-ce que les traditions Hmongs, le langage, est-ce que tout ça a été conservé? Est-ce que ça vit encore?
Ça vit encore. Après, ça se perd malheureusement, parce que la nouvelle génération, on se sent français en fait. Enfin, même si on a des origines Hmongs une partie va parler le Hmong, mais une partie, comme moi, on a perdu en fait la langue. Je comprends le Hmong, mais je ne le parle plus. Donc c'est vrai que c'est compliqué aussi parce que. Par exemple, pour moi, pour le coup, je me sens vraiment française. J'ai vécu en France, donc pour moi, c'est la France maternatale. Mais c'est vrai qu'après, il y a des belles choses à conserver chez les Hmongs. Donc, il va y avoir plein de traditions pour nous qui sont un peu, qui semblent un peu passées. Mais je pense qu'il faut quand même les conserver. Après, la communauté, elle est très discrète. Mais malgré tout, elle continue à faire les gros mariages avec plein de Hmongs invités. On continue quand même à faire, vraiment les gros événements, le Nouvel An. Enfin, il y en a plein partout où on fait vraiment des grandes fêtes tous ensemble avec des danses traditionnelles, les habits, etc. Donc, je pense que malgré tout, ça va rester parce que parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont maintenir en fait ces traditions. Et pour la Guyane, c'est vrai qu'il y a une grosse communauté Hmong là-bas. Pour le coup, je ne connais pas trop parce que je n'y suis jamais allée. J'y vais bientôt pour les rencontrer. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu aussi arrivés là-bas un peu comme ça. Enfin, c'était un peu par hasard, quoi. En gros, on leur a dit, il faut faire vivre ces terres. Vous allez devenir agriculteur là-bas. Et ils ont été déposés une nuit et ils ont dû tout construire de A à Z, quoi. Donc c'était un peu pareil, c'était difficile pour eux. Mais voilà. Et là-bas, ce qui est intéressant en Guyane, c'est qu'il y a vraiment des villages Hmongs, vraiment où il y a vraiment quasiment que des Hmongs là-bas. Donc je pense que là-bas, les traditions et la langue se perd moins qu'en France, où forcément on peut être éparpillé. Par exemple, moi je suis pas forcément dans un coin où il y a beaucoup de monde, donc c'est aussi pour ça qu'on a perdu la langue. Enfin, dans ma famille, il y a que ma plus grande sœur qui parle encore le Hmong. Et après, c'est vrai que il va y avoir des jeunes qui vont rester dans la communauté et d'autres qui vont s'en détacher. C'est très variable.
Mais c'est là aussi, ce qui est émouvant dans votre livre, c'est que vous parlez évidemment de vous, et à la fin, vous dites que vous êtes vraiment très fier d'être Hmong, et on a un peu le sentiment en lisant que tout le livre vous a rendu encore plus fier.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que pendant très longtemps, en fait, j'ai eu du mal à accepter justement d'être Hmong, parce que quand on est fille d'immigrés, on sait pas trop d'où on vient, donc on se cherche beaucoup en fait. Et le fait de faire cette BD, de faire ces recherches, de me replonger en fait dans toute l'histoire familiale, ça m'a vraiment, j'ai vraiment pris conscience que qu'être Hmong en fait c'était bien, et j'ai vraiment accepté ce côté-là de mon histoire aussi. Et c'est vrai que je suis fière d'être Hmong parce que je pense qu'ils ont, ils ont fait des choix qui étaient pour eux bons, mais il faut accepter l'histoire comme elle est et accepter ses origines aussi. Ça fait partie de mon ADN et c'est important. C'est vraiment très important, je pense, de savoir d'où on vient pour savoir aussi où on va après.
Parce que c'est votre livre est très très documenté, donc vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup lire pour reconstituer cette histoire des Hmongs dans une bande dessinée. Je voulais aussi parler de votre dessin, parce qu'on pourrait se dire que dans une bande dessinée sur l'histoire des Hmongs, il faudrait un dessin hyper réaliste et hyper documentaire. Or, vous avez un autre style qui est un style qu'on pourrait qualifier de plus orienté vers le manga. Et au début, on est un peu dérouté parce que vos personnages prennent la forme d'enfants, de petits-enfants. Et il y a des guerres, il y a John Kennedy, enfin, il y a des militaires français, il y a des militaires communistes. Il y a toute une galaxie de personnages. Et à chaque fois, ils sont dessinés sous le trait d'enfants.
Oui, alors moi, j'ai grandi avec les mangas. Donc, c'est vrai que je suis très, très influencée par la culture japonaise et les mangas, etc. Donc, quand j'étais petite, je recopiais les dessins de Sailor Moon, de Dragon Ball, etc. Donc, c'est vrai que forcément, mon style de dessin, ça va vraiment être du manga, quoi. Après, je l'ai adapté pour que justement, après, chacun trouve son style, etc. Mais moi, j'ai voulu faire cette BD avec des chibis, hein, comme on appelle ça comme ça. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'était plus facile à dessiner. Et comme je savais que ça allait être une BD où j'allais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages à faire et beaucoup de choses à dessiner, je ne me sentais pas prête au niveau du dessin à faire quelque chose de très réaliste. Donc c'est aussi par facilité que j'ai fait ça. Mais je me suis dit, en fait, surtout, c'est pour ça qu'il n'y a pas de couleur aussi, que c'est un livre en noir et blanc. C'est parce que je me suis dit, si je ne le fais pas avec ce style-là et en noir et blanc, en fait, je ne vais jamais le faire parce que j'y arriverai jamais, en fait. Donc,
Non, mais ça marche très, très bien parce que, d'une part, c'est un livre qu'on peut mettre entre toutes les mains. Et voilà, c'est un livre adulte, j'allais dire. Mais c'est un livre qui marche très, très bien pour la jeunesse. Et c'est une jolie leçon d'histoire bien, bien, bien faite pour les plus jeunes. Enfin, pour les plus jeunes, je dirais au collège. Donc ça, c'est important d'adapter le style à l'histoire aussi pour ça. Et puis, ça donne aussi beaucoup de distance parce qu'il y a pas mal d'événements très dramatiques dans votre bande dessinée. Et le fait de les dessiner comme ça, on se met un peu à distance.
Oui, c'est une histoire qui est assez tragique. Hein. Il y a beaucoup d'événements qui sont durs. Je pense que ça met un peu de légèreté. Et surtout, j'ai essayé de mettre des touches d'humour à certaines cases pour justement aussi, moi, quand je l'ai faite, pour aussi me détacher aussi un petit peu de ces événements qui sont très difficiles. Et mettre aussi un peu mon style, parce que moi, j'ai beaucoup d'humour. Hein. Donc voilà, c'était aussi ma petite patte personnelle dans cette histoire.
Oui, non, il y a plein de petites blagues, à la fois des blagues visuelles, mais il y a aussi des blagues dans les dialogues, des blagues dans les détails. Enfin, c'est très agréable et très léger à lire. Juste pour finir, vous parlez d'un documentaire que vous aviez vu à la télé, que j'avais vu aussi, moi. Et ensuite, moi, j'ai fait d'autres recherches professionnellement sur des photos des guérillas Hmong et des guerriers Hmong. Quelle est la situation des Hmong actuellement au Laos et en Thaïlande ?
Alors, actuellement, pour le coup, je pense qu'elle n'a pas trop changé depuis. Enfin, après, c'est très difficile d'avoir des infos à ce niveau-là. Mais c'est vrai que... Oui, on n'a pas trop d'infos. Enfin, au Laos, en fait, il va y avoir des villages Hmong où, en fait, ils sont tous ensemble. Et en gros, c'est très touristique. Donc, les gens vont venir visiter. Il va y avoir les tapisseries, les choses comme ça. Mais voilà, c'est... On n'en sait pas, enfin, personnellement, je ne sais pas trop vraiment la vraie situation parce que entre ce qui montre et ce qui se passe réellement, il y a toujours une grosse différence. Et c'est vrai que, par exemple, tous ceux qui étaient dans la jungle pendant le reportage, on a vraiment. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas eu de nouvelles. Même, j'en avais discuté avec Cyril Payen et c'est vrai que c'est très compliqué déjà de les joindre. Donc, on ne sait pas du tout.
Vicky, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi pour parler de votre album « Hmong, l'histoire vraie d'un peuple méconnu » publié par les éditions Delcourt. Donc, ça fait 160 pages et il est au prix très raisonnable de 16,50 €. Et on le trouve évidemment dans toutes les bonnes et même, je pense, les mauvaises librairies de France et de Navarre. Ben, je vous remercie beaucoup et je vous dis au revoir et à très vite.
Merci beaucoup Stéphane et à bientôt peut-être.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh ! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.